Thank you very much.
Merci, Madame la Présidente. Je souhaite à mon tour une chaleureuse bienvenue à la délégation de haut niveau de la RDC à ce dialogue portant sur son rapport exceptionnel. Je remercie sincèrement le gouvernement de la RDC de sa présence en dépit de la situation indicible sur place. Alors que la crise en matière de droits de l'homme s'aggrave, la situation femmes, paix et sécurité continue à poser problème, étroitement liée avec le conflit en cours, l'instabilité et les inégalités de genre profondément ancrées dans le pays. Alors que je félicite le gouvernement pour ses efforts consentis en vue d'aborder ces difficultés, la situation des femmes et des filles est une situation d'insécurité, de marginalisation, de vulnérabilité. Et les violences liées au conflit sont des problèmes continus. L'absence de l'état de droit et l'impunité pour les auteurs de violences et les normes culturelles qui perpétuent cette violence fondée sur le genre continuent à saper tout effort d'égalité homme-femme. L'article 52 de la Constitution de la RDC prévoit que tous les Congolais ont le droit à la paix et à la sécurité. À cet égard, la RDC s'engage à mettre en œuvre le programme Femmes, Paix et Sécurité consacré par la résolution 1325 du Conseil de sécurité ainsi que les résolutions ultérieures. Vous avez également mis en place et mis en œuvre deux plans d'action national sur Femmes, Paix et Sécurité. Ces plans d'action nationaux visent à faire promouvoir les droits des femmes et des filles pendant et après les conflits et à lutter contre l'impunité face à des crimes commis contre les femmes et les filles. Le plan d'action national de la deuxième génération s'est terminé en 2022. Étant donné la situation catastrophique actuelle, il est d'autant plus impératif d'avoir un bon plan doté des ressources et capacités nécessaires. J'ai été heureuse de constater dans votre déclaration liminaire, Madame la chef de délégation, que vous avez mentionné que le plan d'action national actuel a été adopté en 2024 et nous n'en avions pas connaissance. Je souhaiterais savoir dans quelle mesure les organisations des femmes et des victimes participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de ce plan. Alors que les deux premiers plans souffraient de difficultés de financement, quels sont les fonds prévus pour ce nouveau plan? L'un des objectifs, comme vous l'avez dit, vise à lutter contre l'impunité et la violence fondée sur le genre. Or, en dépit de la gravité de la violence sexuelle, l'impunité reste un problème de taille. Un grand nombre d'auteurs de violences sexuelles, y compris les milices, les combattants et même du personnel militaire ainsi que du personnel de police, s'adonneraient à cette violence fondée sur le genre en toute impunité. Quels sont les plans prévus dans le cadre de ce conflit pour y remédier? La participation des femmes à la conciliation de la paix et au processus politique en RDC sont souvent minimes, en dépit du fait qu'elles sont les plus touchées de manière disproportionnée par la violence et les conflits. Les militantes femmes ont joué un rôle essentiel pour plaider en faveur de la paix dans les communautés, du désarmement et de la réconciliation. Or, les voix des femmes sont souvent réduites au silence dans le cadre des négociations officielles de paix et les processus politiques. Quelles mesures concrètes prenez-vous pour renforcer la participation réelle des organisations féminines et des victimes de violences sexuelles liées au conflit dans l'élaboration et le contrôle ainsi que la mise en œuvre des cadres politiques et juridiques liés aux femmes, paix et sécurité? La RTC a une politique de tolérance zéro face à la violence fondée sur le genre et a également adopté une politique de justice transitionnelle visant à pallier aux graves violations, notamment violences sexuelles liées au conflit, et a mis en place des réformes s'agissant de réparation et de la reddition des comptes. Entre autres, je félicite l'État parti d'avoir créé et mis en œuvre le Fonds national de réparation pour les victimes de violences sexuelles et autres crimes dans le cadre de cette politique. Pourriez-vous nous fournir davantage d'informations et des données sur les activités quotidiennes de ce fonds et sur les progrès consentis? Combien de victimes de violences sexuelles liées au conflit ont bénéficié de ce fonds? Disposez-vous d'un budget spécifique pour financer ce fonds réparation? Les femmes sont largement sous-représentées dans les processus humanitaires post-conflit, la consolidation de la paix et les opérations de paix ont également des difficultés à intégrer les questions de genre dans leur programme. Quelles mesures sont prises pour garantir une gestion financière et les capacités financières adéquates pour faire en sorte que ce processus et la justice transitionnelle soient axés sur les victimes. Dernière question concernant la décision de retrait de la MONUSCO. Suite au retrait de la MONUSCO, les risques de violence, de détresse humanitaire et l'absence de reddition des comptes restent élevés. Dans quelle mesure le plan de transition du gouvernement pourra-t-il combler cette lacune et ce vide, surtout s'agissant du programme plus général Femmes, Paix et Sécurité ? Je vous remercie.